Toi partagé pour Maman isolée, un débat proposé par Alter Echo en collaboration avec Bruxelles nous appartient et le soutien d'Equal Bruxelles. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission consacrée à un sujet crucial, l'accès au logement pour les mamans solo à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des réalités que vivent ces femmes qui, chaque jour, jonglent entre parentalité et recherche d'un toit décent pour elles et leurs enfants. À Bruxelles, de nombreuses mères se retrouvent seules à assumer la charge familiale et l'accès à un logement abordable et adapté devient un véritable parcours du combattant et même de la combattante. Entre files d'attente interminables pour un logement social, des loyers en hausse et des discriminations, ces mamans font face à des obstacles multiples qui fragilisent leur quotidien et celui de leurs enfants. Au fil de cette émission, nous allons en discuter avec deux actrices de terrain pour mieux comprendre le défi mais aussi les solutions qui existent pour améliorer l'accès au logement à Bruxelles. Il s'agit d'Alexandra Wolf de la Ligue des Familles et de Khadija Bouchirab de la Maison des Parents Solo. Merci à vous deux d'être avec nous. Et pour commencer, on va commencer par dresser un peu le portrait de la situation actuelle, bien qu'elle ne soit pas récente, des mamans solo à Bruxelles face à la recherche de logement. Est-ce que vous pourriez décrire un peu quelle est cette réalité justement de ces mamans solo qui cherchent un logement? Quels sont les obstacles? Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
Ok, je vais commencer. Donc, les difficultés que les mamans auxquelles les mamans font face quand elles cherchent un logement, c'est essentiellement de trouver un logement abordable et de qualité et qui réponde à leurs besoins. La plupart des logements coûtent trop cher et donc elles se replient sur des logements qui ne sont pas dans des endroits où elles voudraient vivre ou alors elles renoncent à certaines choses comme une chambre pour elles pour pouvoir dormir ou une petite terrasse ou ce genre de choses. Et du coup, c'est très compliqué pour elles d'avoir un logement qui leur correspond et qui correspond à leurs besoins et à ceux de leurs enfants.
Vous connaissez déjà les obstacles que vous rencontrez, vous ?
Je pense que déjà, à la base, la recherche de logement à Bruxelles est déjà compliquée. Qu'on soit famille monoparentale ou pas, il y a un réel problème, un vrai décalage entre l'offre et la demande. Donc je pense que déjà, Bruxelles est pointée du doigt pour ces complications-là. Donc déjà, c'est déjà une première réalité. Après, pour les mamans solo, ça devient encore plus compliqué. Effectivement, comme disait Alexandra, c'est souvent de l'insalubrité. C'est souvent, elles prennent ce qu'elles peuvent. Effectivement, on rogne sur les chambres, on rogne sur la qualité, on rogne sur des éléments finalement fondamentaux pour être dans un endroit sécure. Et donc voilà, et donc fatalement, ce sont elles les premières qui en pâtissent et leurs enfants. Donc la réalité des mamans solo à Bruxelles face au logement, elle est vraiment critique aujourd'hui. Je pense qu'il faut, vous parliez du parcours de la combattante en l'occurrence là, il faut vraiment pousser un signal d'alarme très fort aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une situation qui est critique réellement.
Et alors, ce qu'on constate au-delà de ce constat que vous évoquiez, c'est aussi un certain nombre de discriminations qui pèsent sur ce profil-là en particulier, en termes de revenus, de genre, d'origine, mais aussi du nombre d'enfants. Et là, c'est vraiment, il n'y a pas de solution, on semble, c'est assez compliqué, à la fois pour les mamans d'admettre qu'il y a discrimination, de la porter en avant auprès d'associations, même en justice, alors qu'il y a tous des dispositifs qui existent. Et donc, comment vous expliquez un peu ces discriminations et comment travailler avec ce public-là ?
Il y a toutes les discriminations que vous avez déjà évoquées, donc le genre, le fait d'avoir d'être famille nombreuse, le fait de par leur origine, des revenus de remplacement aussi, et puis aussi le fait d'être une mère seule avec des enfants, peu importe le nombre d'enfants qu'elles ont, ou elles font aussi face à des discriminations parce que les propriétaires se disent « Ah mais est-ce qu'elles vont pouvoir payer le loyer ?» Et puis il y a toujours des préjugés en disant « Ah mais si elle est toute seule avec ses enfants, est-ce qu'elle sait bien les éduquer ?» Est-ce que les enfants ne vont pas faire de dégâts dans mon appartement ? Il y a toutes ces choses-là, en fait, auxquelles elles font face et qui s'additionnent les unes aux autres et qui rendent leur recherche de logement plus compliquée.
Khadija,
oui,
par rapport à ces discriminations ?
C'est tout à fait d'accord avec Alexandra, effectivement, même si le mot est un peu galvaudé à ce moment-ci, je pense qu'on parle bien de discrimination intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elle les cumule. Et effectivement, dans le cas d'une maman solo, il y a clairement un a priori dans l'inconscient collectif, on se dit qu'une maman solo, déjà, elle gagne beaucoup moins qu'un homme. Il y a vraiment cette croyance-là à déconstruire et parfois, ça l'est, parce que ce qu'il faut aussi nommer, c'est qu'une maman solo va privilégier le temps d'éducation de son enfant et donc va d'office prendre ou des temps partiels ou des petits contrats et autres assez précaires. Et donc, fatalement, sur ses revenus, ça s'en fera ressentir. Donc, il y a cette réalité-là aussi où quand on voit des fiches de salaire, le propriétaire se dit non, elle n'est pas en mesure de payer. Donc ça, c'est une réalité, mais il y a vraiment quelque chose à déconstruire dans le préjugé de ce qu'une maman solo peut se permettre en termes de logement ou pas. Nous, en tout cas, à la Maison des Parents Solo, on travaille beaucoup à déconstruire ce préjugé-là en se disant, ben, en fait, une maman solo, ce n'est pas juste une maman racisée qui a 5 enfants, qui ne travaille pas, qui a un revenu de remplacement. Il y a d'autres types de profils de maman solo et donc qui sont totalement éligibles pour nous, pour pouvoir avoir des logements dans le privé. Donc, certes, ces discriminations sont là, mais il faut essayer d'y travailler. Il faut aussi pouvoir amener les parents, les mamans à pouvoir alerter sur cette discrimination. Alors souvent, la maman en question, elle veut juste rechercher un logement. Elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas la force de pouvoir rentrer dans des démarches juridiques et autres, mais c'est de notre ressort, je pense, à la Ligue des Familles, à la Maison des Parents Solo, d'alerter et en fait de rendre ces infos-là plus pédagogiques, de dire en fait, ce qui se passe là, c'est pas OK. C'est pas OK qu'un agent immobilier te dise, je veux d'abord voir vos revenus avant même de vous proposer une visite. Donc, il faut vraiment les alerter là-dessus en disant, c'est pas OK ce qui se passe. Et parfois, certaines mamans font aboutir les choses. Donc, je pense que ça, c'est réellement important. Et j'invite aussi les mamans solo à aller sur le site de UNIA. Nous, on a déjà travaillé avec eux. Il y a un vademécum, justement, à destination des agents immobiliers, etc., pour pouvoir se dire, ça, c'est de la discrimination, ça, ça l'est pas. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, il y a un travail réellement pédagogue à faire autour de ces mamans-là et de se dire, voilà, c'est pas parce que tu es face à des discriminations qu'il faut d'office laisser tomber. Il y a moyen aussi de pouvoir les contrer, même si c'est minime, on est d'accord. Mais nous, en tout cas, notre débat, c'est pas de dire il y a des discriminations et on n'en fait rien. Je pense que ça, c'est fondamental.
Mais parce que toute la situation que vous décrivez, à la fois marché du logement en crise, discrimination en plus, ça conduit aussi, et on peut le retrouver ici dans l'article d'Alter Eco, aussi à une espèce d'isolement finalement de ces mamans solo qui se retrouvent à la fois seules, même si elles ont un logement, à gérer leur temps avec les enfants, un travail ou la recherche de revenus. Et aussi le fait de se retrouver seul par rapport à des acteurs, des agents immobiliers et autres, c'est vraiment une situation d'isolement forte.
Je pense que même au-delà de la thématique logement, je pense qu'en étant parent solo, et là je généralise aussi aux deux genres, on ressent énormément de solitude. C'est vraiment un statut qui plonge les personnes dans une profonde solitude, une solitude affective, une solitude matérielle et autre. Donc je pense même qu'au-delà de ce volet là, logement, c'est parfois un parcours du combattant dans cette approche là aussi. Après, au niveau du logement, je pense que ça rajoute de la peine à la peine et du stress au stress, justement parce qu'en fait un logement, c'est quoi? Je pense qu'on l'oublie un petit peu, c'est sa principale sécurité. C'est vraiment mettre un doigt sur sa tête. À part manger, il n'y a pas d'autres besoins qui soient fondamentaux. Donc je pense que c'est important de le rappeler, c'est de se dire en fait on n'est pas tous logés à la même enseigne et d'avoir un toit sur sa tête, c'est fondamental, c'est un besoin de sécurité très basique et primaire auquel certaines n'ont pas accès, ça c'est très clair. Et donc voilà, le côté seul, il est déjà présent, mais il se renforce et le stress se renforce et la charge mentale se renforce également par cette absence de logement. Et il y a aussi le fait de devoir quitter un logement. On fait énormément face à des avis d'expulsion, ça je pense qu'en termes de stress et en termes d'insécurité, il n'y a pas plus fort. Et donc voilà, je pense vraiment que ces parents-là sont dans une extrême précarité émotionnelle, relationnelle, affective aussi, parce que je pense que tout est un petit peu lié. Mais voilà, ça rajoute la solitude à la solitude. Pour moi, c'est clairement ça.
Alexandra.
Nous, on parle d'un cercle vicieux à la Ligue des Familles, où en fait, quand on interroge les familles monoparentales et qu'on leur demande quels sont leurs trois problèmes prioritaires, enfin, les trois plus gros problèmes qu'elles rencontrent, c'est le manque de moyens, le manque de logements abordables et de qualité, et les problèmes de conciliation. Et en fait, les uns, les autres, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand on ne peut pas exercer un emploi à temps plein parce qu'il n'est pas prévu pour qu'on puisse le concilier avec les besoins de ses enfants et les impératifs familiaux, bah oui, on se retrouve contraint de prendre un temps partiel, ce qui fait des revenus moindres, ce qui fait des difficultés à trouver un logement abordable, décent. Et du coup, bah oui, ces familles rognent sur certaines choses. Et donc, ça veut dire aller vivre peut-être plus loin que là où sa famille réside, ou ses amis, avoir un tissu de solidarité qui, du coup, est plus éloigné et peut moins soutenir. Ça veut dire peut-être vivre plus loin de l'école des enfants et donc faire des trajets plus longs pour amener les enfants à l'école et les ramener. C'est toutes ces difficultés-là qui renforcent la solitude. Et puis, quand on n'a pas de moyens, ben, on réfléchit à deux fois avant de se dire « on va aller prendre un café avec un ami en terrasse ». Et puis, il faudra avoir le temps d'aller prendre un café avec un ami en terrasse quand on doit aller travailler et puis aller chercher les enfants à la sortie de la garderie.
Mmh. Donc c'est vraiment une situation explosive. On parlait vraiment de parcours du combattant, c'est tout à fait le cas. Après avoir dressé le portrait, je vous propose à toutes les deux maintenant de voir un peu quelles solutions sont proposées, quel accompagnement peut être proposé à ses mamans et éventuellement aussi des initiatives innovantes. Il y en a. Peut-être qu'Adija va revenir avec vous sur la maison des parents solo qui accompagne alors des parents et notamment des mamans solo dans leur recherche de logement, et notamment il y a le travail d'une assistante sociale que j'ai pu rencontrer de Nadia. Est-ce que faut mettre en avant son travail? Peut-être m'expliquer un petit peu pourquoi il a fallu finalement une assistante sociale au sein de votre maison qui propose différents services, différents types d'accompagnement, vraiment une personne qui accompagne des parents dans la recherche d'un logement.
Voilà, donc effectivement, ça a été pensé à un moment donné où la charge de travail qui concernait les questions de logement était devenue trop importante, dans le sens où nous avons 3 assistantes sociales du pôle social et les demandes vraiment débordaient au niveau du logement. Et donc à un moment donné, c'est à l'initiative de Nadia qui a pensé ce projet-là, et aussi soutenu par une initiative financière d'Equal Brussels, qui nous a permis de développer ce qu'on appelle nous le pôle logement. À côté de ça, je précise qu'on est un service de première ligne. À la base, on n'est pas du tout un service logement dédié pleinement à ça. Mais par contre, on a créé ce pôle logement et il est vraiment tout récent. Il a été créé en 2023. Donc, c'est vraiment, on n'a même pas 2 ans. Donc, c'est vrai que c'est assez jeune. Et à la fois, finalement, les propositions qu'on fait aux parents solo au niveau de nos accompagnements, c'est un accompagnement assez, assez innovant, dans le sens où Nadia, justement, peut prendre le temps dans ses permanences. C'est assez rare. Elle peut donner une heure et demie du temps en entretien pour accompagner les personnes, pour faire en sorte qu'elles complètent finalement leurs inscriptions aux logements sociaux et autres. Et donc moi j'appelle ça du travail social de dentelle. Et donc je pense qu'aujourd'hui on se bat encore pour pouvoir le garder et le laisser en place. Et voilà, je pense que ça c'est important à nommer. On a aussi des accompagnements collectifs. Donc tout un temps Nadia faisait des séances collectives d'information justement aux inscriptions CISP, AIS et autres, parce que ce sont des infos finalement qui sont à destination de tout public. Et donc c'était intéressant de faire des séances collectives comme ça. Lors de ces séances, il y a énormément de choses qui en sont ressorties et il y a beaucoup de parents qui avaient un besoin de parler justement de cette difficulté d'accès au logement. Donc là, on s'est dit, OK, il y a un accompagnement finalement de terrain sur le travail, les questions de logement, mais il y a un accompagnement d'écoute aussi qui est très grand. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première force de nos accompagnements à la maison des parents solo. Et puis, on réfléchit aussi, en collaboration avec Nadia, à ce qu'on peut faire pour bouger les lignes. Parce qu'en fait, voilà, il y a un côté très frustrant aussi où elle accompagne toute une série de parents. Alors oui, de temps en temps, il y a une belle nouvelle qui se dégage. On arrive à trouver un logement ou autre. Mais face à ça, elle a quand même une gestion de la frustration qui est assez énorme. Et dans ce cadre-là, on a réfléchi. On s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, on lance un peu des perches. Là, on a eu la bonne nouvelle de pouvoir signer 2 conventions avec des CISP qui nous permettent d'avoir un certain nombre de logements pour les maman solo. Alors c'est minime, hein. On parle d'un logement par an, mais pour nous c'est déjà ça, donc c'est pas mal. Et puis en termes de projets innovants, on a eu énormément de chance dans le cadre justement de ce projet logement, permanence logement. On a été approché par un promoteur immobilier privé en fait, qui avait l'intention justement de mettre à disposition, de construire un logement passif et de le mettre à disposition de maman solo. Et donc ça s'appelle le projet Liberté. Et là en fait, ce sont des initiatives comme ça. Alors on sait, ça touche pas toutes les mamans, parce qu'évidemment, il faut avoir un revenu quand même parfois qui permet de payer ça, mais il faut mettre aussi en corrélation le fait que ce soit un bâtiment passif, qu'il y ait un jardin, donc il y a pas mal de plus-value, mais par contre, on peut comprendre qu'une maman solo qui a un revenu précaire n'ait pas accès à ça. Donc, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et là, on a saisi une occasion assez importante de se dire, OK, on propose autre chose. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on rencontre les CISP, voilà, en allant démarcher, en disant, voilà, nous, on a pas mal de mamans solo, de parents solo qu'on aimerait reloger, donc on essaye, c'est humble hein, comme démarche, mais voilà, on essaye de faire la différence à notre niveau. Et puis là, on est en discussion aussi avec le fonds du logement. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'on offre, c'est un accompagnement sur mesure qui peut aussi garantir le fait de payer le loyer, de faire un accompagnement au logement et autres. Donc, je pense que pour certains acteurs, ça peut être rassurant. Et puis, ce que je tiens à dire aujourd'hui, je pense qu'on n'en fera pas l'économie, c'est la conjoncture politique actuelle fait que On est vraiment très inquiet pour nos parents solos, pour nos mamans solos. C'est vraiment le premier public qui pourrait être à même de tomber dans la précarité. Et donc, encore plus renforcer les inégalités au niveau du logement et autres. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que des associations comme les Notes, comme la Ligue, on a vraiment travaillé en collaboration associative pour pouvoir faire en sorte, justement, de contrer ces politiques publiques qui sont assez restreintes et qui font un recul assez énorme. Quand on voit, à l'époque, le plan bruxellois Monop de Nawal Benamou, on se disait, OK, il y a quand même des choses qui évoluent, etc. Là, je pense qu'il faut nommer, il y a une réelle régression. Et donc, ça montre aussi que ben, l'associatif doit monter encore plus au front et soutenir encore plus les personnes précarisées et fragilisées, comme les mamans solo.
C'est entendu. J'espère que ça arrivera à l'oreille de quelques responsables. Mais vous, Alexandra, au niveau de la Ligue des Familles, il y a 2-3 ans, vous avez aussi fait une grande enquête en Wallonie à Bruxelles sur cette question du logement. Alors, peut-être deux choses. À la fois, quelles sont un peu les revendications, du moins les propositions. Vous parlez d'un cercle vicieux, hein, de cette conciliation que rencontrent les mamans solo. Justement, quels sont un peu peut-être un peu rappeler un peu le cadre de cette étude que vous avez accompagnée ou menée, et de voir un peu les propositions qui sont les vôtres.
On est parti du constat il y a 3-4 ans qu'on manquait de chiffres, en tout cas quantitatifs, pour vraiment mesurer les difficultés des familles monoparentales par rapport au logement. On avait beaucoup de retours qualitatifs et on se disait, mais parfois des chiffres, ça parle ou ça permet de convaincre plus facilement des décideurs politiques. Et du coup, on s'est dit, on va lancer cette grande enquête. Et donc, c'est une enquête qui a été réalisée avec un institut de sondage auprès d'un échantillon représentatif de familles monoparentales à Bruxelles et en Wallonie, où on a pu les interroger sur toute une série de choses et de questions qu'on se posait, notamment le coût de leur logement. Est-ce que ça a été difficile? Enfin, comment est-ce qu'elles sont devenues familles monoparentales? Et une fois qu'elles sont devenues, est-ce que ça a été difficile de trouver un logement? Est-ce qu'elles ont dû déménager? Dans quel état est le logement qu'elles occupent? Est-ce qu'elles ont dû renoncer à certaines choses? Est-ce qu'elles ont été victimes de discrimination? Ça nous a aussi permis de les interroger sur est-ce que la colocation, ce serait une solution pour elles? Est-ce que l'habitat partager, ce serait une solution pour elles, et quels sont leurs grands besoins et leurs grandes revendications. Nous, ce qu'on en tire à la Ligue des Familles concernant les revendications, c'est qu'il faut absolument jouer sur trois choses, enfin sur trois thèmes. De un, il y a augmenter le parc de logements abordables et de qualité, et nous, ce que nous revendiquons, c'est d'augmenter le parc de logements sociaux publics. Les plans ces dernières années sont minimes, c'est trop lent. Il faut absolument qu'on améliore la quantité de logements et la qualité des logements qui sont déjà sur le marché. La deuxième chose, c'est en termes de revenus, parce qu'il y a vraiment un problème où on a énormément de familles monoparentales qui nous disent « avec mes revenus actuellement, ça ne suffit pas ». Et donc, on a toute une série de revendications dans différents domaines, notamment par exemple sur le coût des frais scolaires. Un point assez évident, c'est que par exemple à Bruxelles, pour les allocations familiales, il y a un supplément pour les familles monoparentales, mais à partir du moment où elles ont deux enfants. Nous, notre revendication, c'est de dire, mais la majorité des familles monoparentales à Bruxelles, elles ont un enfant. Ce serait bien qu'on leur accorde ce supplément allocation familiale dès le premier enfant. Et alors, le troisième point, et je rejoins Khadija sur ce point-là, c'est les nouvelles mesures qui s'annoncent, notamment en fédéral, en matière de réforme du travail. Ça va être un vrai problème pour de nombreuses familles, et a fortiori pour les familles monoparentales qui sont toutes seules à gérer les enfants, à s'occuper de leurs enfants. Et pour nous, ça, c'est vraiment un point d'inquiétude, dont on risque de voir beaucoup de familles basculer dans une plus grande précarité ou basculer dans la précarité alors qu'avant elles s'en sortaient.
Donc il y a cette urgence, cette inquiétude. Pour revenir un petit peu à ce qui existe, vous parliez, Khadija, des AIS, et vous, Alexandra, des logements sociaux. Est-ce que, alors on sait pour les logements sociaux, l'offre est insuffisante, mais même quand, imaginons, il y a des logements disponibles, est-ce qu'ils sont adéquats pour les familles monoparentales en termes de chambres? Je sais que c'est parfois une question qui se pose, une réalité qui n'est pas toujours couverte, mais peut-être au-delà de ce cas-là, est-ce que par rapport au dispositif qui existe, quels sont un petit peu aujourd'hui les points forts, les limites que vous constatez par rapport à ceci?
Le premier problème, c'est le délai d'attente, peu importe. Pour obtenir un logement social, j'ai vérifié, en 2024, c'est 11 ans d'attente. Si on a un enfant de 8 ans, attendre 11 ans, il sera plus à la maison, ou peut-être que s'il fait des études supérieures, il restera encore quelques années, mais en fait, c'est attendre 11 ans, c'est inadmissible. Et alors, pour les familles nombreuses, ce délai, il est encore plus long.
On 19 ans,
j'ai Oui, c'est ça. Donc, en fait, on n'est plus famille nombreuse à la fin. Oui. C'est une petite blague, mais...
Oui, ça prête à rire, ces chiffres.
C'est ça. Donc, ça, c'est un vrai souci. J'ai pointé le manque de logements sociaux, mais c'est aussi le manque de logements AIS, où il n'y en a pas assez non plus. Il y a aussi des listes d'attente dans les logements AIS. On le disait, en fait, il manque des logements de toutes les tailles, surtout des grands logements, et il manque des logements sociaux pour toutes les familles, en fait.
Mmh. Oui, parce que c'est à la fois du logement accessible, mais aussi des logements qui correspondent à votre vie familiale. Ça, c'est... Il y a un cas, par exemple, qu'on évoque dans notre papier, c'est celle d'une maman qui vit en AIS. Elle a deux ados, un garçon et une fille. Il y a deux chambres. Évidemment, selon les règles de l'AIS, les ados ne peuvent pas être dans la même chambre. Donc, ça pose des choses assez banales, quotidiennes, deviennent vraiment des casse-têtes.
C'est une de nos demandes à la Ligue des familles de réexaminer les critères de... je vais dire peuplement dans les logements sociaux, parce qu'à partir d'un certain âge, des enfants de genres différents ne peuvent plus être dans la même pièce. Et en fait, quand on veut juste un toit au-dessus de sa tête, le principal, c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête.
Au-delà des genres.
Et... Oui.
Je pense qu'effectivement, il y a des choses à revoir un peu à tous les étages. C'est pas, on va dresser un tableau qui est un petit peu sombre, mais c'est une réalité aujourd'hui. Donc, moi, je pense que à mettre en place, évidemment, en fait, avant qu'on en discute, nous, au niveau de l'associatif, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui doit être faite. Et malheureusement, l'absence de gouvernement aujourd'hui, on ne sait pas à qui s'adresser, on n'a pas le secrétaire d'État au logement. Et donc, ici, on a beau refaire un petit peu l'histoire, malheureusement, c'est un peu de l'entre-soi. On essaie de faire ce qu'on peut. En fait, on met des pansements sur des plaies, mais finalement, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience politique pour pouvoir travailler sur ces politiques publiques, de se dire là, ce qui se joue, c'est la catastrophe. Et effectivement, à côté de ça, ben, on va vers des dérives de marchands de sommeil et autres. Donc moi, j'ai l'impression que le maillon de la chaîne tout premier, c'est une prise de conscience plus haut. Ensuite, moi, je pense qu'il y a des choses à travailler très concrètes. Effectivement, comme tu dis, Alexandra, en général, une maman solo qui prend un logement au niveau du privé, elle va faire quoi ? Elle va dormir sur un clic-clac dans le salon. Ça, c'est la réalité de nos familles monop et de nos mamans solo. C'est ce qui se passe, en fait. Elles laissent les chambres aux enfants et c'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense que le code du logement, à un moment donné, doit être vu, être dépoussiéré. Je te rejoins tout à fait sur, dès qu'il y a 12 ans, on ne peut pas, etc. Mais la réalité, elle fait que, en fait, tout ça, c'est bafoué de nos jours. Et donc, je pense qu'il faut une corrélation entre la réalité de terrain et les réalités du code du logement, première chose. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la rénovation des anciens biens, parce que je pense que même si certains sont logés dans des logements sociaux, on voit le nombre de fois dans les médias où on voit que les logements sociaux sont insalubres, ne sont pas OK, manque d'ascenseurs. Donc, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de se dire il faut rénover ce parc locatif. Ensuite, je pense qu'il faut repenser les nouvelles constructions aussi, avec un nombre de mètres carrés minimum et autres. Il y a un moment donné où je pense qu'il faut une prise de conscience qui soit à tous les étages. Et ça, nous, l'associatif, on ne pourra pas le faire si on n'a pas à un moment donné les leviers immobiliers, on n'a pas à un moment donné les leviers politiques. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire d'un commun accord. Et ici, le problème, c'est que, comme dit Alexandra, on sait à quelle sauce on est mangé au fédéral et le goût n'est pas très bon. On ne sait pas pour la suite au niveau régional. Et ce qui s'annonce, quand on voit un petit peu les partenaires potentiels, nous inquiète très fort. Donc moi, j'ai l'impression qu'au niveau du logement, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Et je pense que chacun fait ce qu'il peut aussi. Les délais d'attente, quand on annonce à une nouvelle maman qui s'inscrit, de lui dire « voilà, prenez votre mal en patience, il y aura 10 à 15 ans d'attente », c'est un découragement total. C'est vraiment, c'est une hécatombe. Moi, je suis même gênée parfois de donner les délais. À côté de ça, il y a quand même deux mesures qui pour moi sont à noter aussi, pour un petit peu équilibrer les choses et pas donner envie à tous nos parents qui nous entendent justement de sombrer encore plus. C'est en tout cas l'allocation loyer, l'allocation de relogement. Je pense que ça, c'est fondamental. Et si les parents qui nous entendent et qui sont pas informés de cette mesure peuvent y réfléchir et tenter d'y avoir accès. Donc c'est quoi ? C'est une mesure qui permet d'avoir un soutien financier mensuel qui est calculé en fonction des revenus et qui permet en fait de tenir jusqu'à ce qu'on obtienne un logement social. sociale. Alors c'est une infime compensation, c'est vraiment un moindre mal, mais c'est déjà ça. Et pour certains parents, ça met un peu de beurre dans les épinards. Donc je pense que ça, c'est à noter. Et alors ici, récemment, j'ai pas la date en tête, je dirais 1er avril, Alexandra, mais corrigez-moi, la nouvelle mesure au niveau des loyers abusifs.
Ah voilà. Oui, l'encadrement des loyers,
exactement.
Le 1er mai.
Mai, voilà, oui. Un mois près. Donc voilà, pour moi, c'était une vraie victoire, parce que je pense que ce qu'il faut nommer aussi, c'est qu'on a un réel gap entre l'offre et la demande au niveau du logement bruxellois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y en a qui se frottent les mains. Et il y en a clairement qui profitent de cette situation de crise pour s'en mettre plein les poches. Alors voilà, on dirait que c'est de bonne guerre pour certains, mais pour moi, c'est vraiment encore ajouter de la complication, parce que c'est pas OK. Je pense toujours à un propriétaire, il rembourse son emprunt, de pouvoir faire en sorte d'augmenter les prix et de prendre finalement le panel de parents qui va pouvoir payer le plus. Ça rajoute de l'injustice à tout ça. Et donc voilà, moi je trouve que cette commission, en tout cas, elle permet de dire à un moment donné, oh là, stop. On siffle la cour de récré, on se dit c'est plus OK. Et voilà, je pense que peut-être pas énormément de locataires le feront, mais juste de voir qu'il y a un moment donné cette limite qui est mise, en termes de signal, je trouve ça assez positif. Donc voilà, j'avais envie de nuancer sur ces deux mesures-là.
Peut-être aussi de précision par rapport à cette allocation. On constate dans les chiffres, c'est d'ailleurs une majorité de mamans solo qui font appel à cette allocation. Et par rapport à l'encadrement des loyers, il y a déjà eu des premiers cas, alors on ne sait pas si ça concerne directement des... qui ont pu aboutir à une révision, en tout cas, du prix du loyer à Bruxelles. Peut-être aussi, vous évoquez, Khadija, un élément, donc des projets un peu innovants qui sortent un peu des clous. Hein. Alors, il faut voir dans le temps ce que ça donnera. Donc, il y a un projet Liberté, effectivement, à Kuckelberg, que j'ai pu visiter pour le papier. J'ai pu aussi rencontrer des mamans qui, avaient reçu l'information via la maison des parents solo pour y habiter. Est-ce que voilà, ces solutions privées, vous disiez effectivement, il y a sans doute des limites, mais voilà, est-ce que ces logements collectifs de mamans solo, ça pourrait être une solution qui serait portée par le privé? Mais voilà, le privé, sachant ce que ça veut dire aussi, ça veut dire voilà, il y a une recherche peut-être d'intérêt, est-ce que ça peut être une solution? Et est-ce que le public pourrait envisager d'accompagner ce type de projet? Comment vous voyez ça? Je sais qu'il y a aussi à la fois une certaine méfiance vis-à-vis de ce type de projet, hein, surtout quand c'est l'associatif vis-à-vis du privé, il y a toujours une espèce de méfiance, et aussi vis-à-vis des publics qu'on accompagne. Comment voyez un peu ce type de projet? Est-ce que ça pourrait se développer sous d'autres formes?
Moi, j'ai l'impression en tout cas que la fin justifie les moyens. C'est surtout
oui.
Ça,
oui.
N'est-ce pas, Alexandra? Je pense qu'on prend un petit peu ce qui vient, et je pense que lorsque justement les politiques publiques ne répondent plus à un besoin, à une demande, et finalement laissent la situation complètement pourrir, je pense qu'il est même de la responsabilité de l'associatif de se réinventer. Donc oui, c'est pas l'idéal, clairement. Oui, on laisse des parents solo, des mamans solo sur le carreau, on en a conscience, mais on se dit actuellement c'est mieux que rien. Et je pense aussi que la force de l'associatif, c'est de décloisonner. On a une image des fondations privées, des donateurs privés et autres, assez clivée. On se dit bah non, nous l'associatif, c'est pas ça. Mais moi je fais le constat, ça fait plus de 18 ans que je suis dans le social et je me rends compte qu'il y a une évolution. Il y a vraiment un relâchement des politiques sur ces questions de l'associatif. Il y a vraiment, quand on entend dans les médias certains politiques, il y a vraiment une espèce d'arrogance sur les personnes qui sont en difficulté. Il y a vraiment une espèce de croyance collective de se dire, en fait, s'ils en sont là, c'est de leur faute. Alors non, justement, je pense que c'est là où l'associatif intervient et de se dire non, nous, les gens qu'on accompagne, ce sont des gens qui se démènent, ce sont des travailleurs pauvres la plupart du temps pour les familles monoparentales. Donc je pense que ça, c'est la première chose à déconstruire et de se dire on va aller vers des projets qui sont innovants. Alors on va déconstruire, on va discuter. Pour le projet Liberté, il y a eu énormément de discussions pour essayer de faire baisser les loyers, etc. Donc nous, le plaidoyer, il est mis. Notre responsabilité, elle est prise. Mais à côté de ça, voilà, il y a aussi un promoteur qui doit rentrer un minimum dans ses clous, dans ses budgets, etc. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire la fine différence et justement essayer de trouver un compromis entre finalement, nous on vient de l'associatif et voici nos desiderata, et je pense qu'il y a quelque chose à déconstruire aussi, c'est-à-dire que l'associatif représente pas uniquement les parents qui ont un revenu de remplacement, mais tous les parents. Je pense que ça, c'est important aussi, en tout cas pour la maison des parents solo,
pour la Ligue des familles
également
aussi.
Voilà, et de se dire, on déconstruit nos aspects en se disant non, on ne peut pas proposer un deux chambres à 850, mais par contre, on essaie de trouver un terrain d'entente et de se dire où est-ce qu'on peut se rejoindre. Et moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses, et pour le logement, et pour le fait de pouvoir accoster des fondations privées, de se dire, à partir du moment où les politiques ne remplissent plus leur rôle, comment est-ce qu'on peut faire, et l'associatif, et les donateurs, parce que finalement, il y a quand même un objectif commun qui est ou de l'aide, ou de l'accompagnement. Et donc, je pense que la force de la Ligue des familles, de la Maison des parents solo et des autres associations aujourd'hui, c'est de se dire, OK, comment on se réinvente ? Parce qu'on ne peut plus faire du social comme il y a 20 ans. Je pense que ça, c'est un leurre. Et si on continue à penser comme ça, je pense qu'on va aussi faire chemin arrière. Je pense qu'à l'inverse, il faut se dire, voilà, là, il y a des possibilités. Et on fera toujours des personnes qui ne sont pas contentes. Je pense que ça, il faut en faire son deuil et en prendre son parti. Il y aura toujours des parents qu'on laissera sur le carreau. Il y en aura d'autres qu'on représentera mieux. Mais on fait ce qu'on peut, vu la conjoncture actuelle. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire, en tout cas.
Parce qu'un des aspects qui est évoqué dans l'étude que vous évoquez, que vous avez faite au niveau de la Ligue des familles, c'était d'envisager aussi d'une piste où de l'habitat groupé et de la colocation. Et le projet dont on parle, donc le projet Liberté, est vraiment un projet d'habitat groupé, donc deux maisons bourgeoises du 19e siècle transformées en une dizaine de logements adaptés à des réalités familiales et, en ce qui concerne le projet Kuckelberg, uniquement à des mamans solo. Ça paraissait aussi comme une solution. Alors, pour un petit nombre de personnes, hein, je pense que c'était peut-être 10% ou quelques, mais en tout cas, il y avait dans votre étude cette possibilité que certains envisageaient ce type d'habitat, voyant que le marché leur était inaccessible. Et quand le marché était inaccessible, c'était parfois pour des logements qui ne leur convenaient pas. Est-ce que, voilà, et dans le public, enfin, les mamans que j'ai pu rencontrer pour l'article, c'est aussi une piste qui s'avère fragile, la piste aussi de la colocation. Comment vous voyez un peu cette solution
Donc dans l'étude, on avait posé la question pour l'habitat groupé, la colocation, et je me souviens que pour l'habitat groupé, on avait un peu plus de familles monoparentales qui étaient favorables que pour la colocation. Et ça peut se comprendre parce que c'est pas évident de se dire qu'on va aller vivre avec des personnes qu'on connaît pas, avec qui ont elles aussi des enfants dans un bâtiment. Et donc, je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde. L'habitat groupé, c'est un peu plus différent puisque chacun a son logement, son chez-soi, et puis on partage des espaces partagés. Mais si jamais on veut pas voir les autres personnes, on ferme sa porte. C'est plus facile. Il y a aussi un autre souci qui est lié à la cause de location, c'est l'individualisation des droits sociaux et le fameux statut cohabitant qui fait peur à de nombreuses familles monoparentales, y compris pour la question de la remise en ménage, qui est un vrai, vrai frein à envisager soit de la colocation, soit une remise en ménage avec quelqu'un, soit à accueillir son papa ou sa maman qui vit une période un peu plus fragile ou ce genre de choses. Et ça, c'est un vrai problème. Et nous, les associations, ça fait des années qu'on se bat pour dire ce statut cohabitant, il doit disparaître. Il faut qu'on arrête de pénaliser les familles.
Oui, ça bloque au fédéral, notamment du côté flamand, hein, si je ne me trompe. Hein, c'est plutôt au fédéral où ça bloque. Et pour revenir sur ces solutions un peu alternatives, ce qui apparaissait aussi, on parlait de charge mentale et tout ça, mais pour les mamans qui se lancent dans ce type d'aventure, il y a aussi, et c'est ce que Nadia me disait, parce qu'elle a accompagné aussi ces mamans, il y a tout un travail à faire en plus de la recherche d'un logement, c'est un travail aussi de dire est-ce que je suis capable de vivre avec d'autres mamans, que mes enfants puissent en termes d'éducation. Donc c'est aussi un énorme travail en termes d'accompagnement que vous avez pu faire, de suivi, et même quand, donc ça c'était pour le projet Liberté, mais en termes de colocation, c'est toujours des questions qui se posent. Donc c'est un gros travail de la part de ces mères qui se lancent dans cette aventure à la fois qui est vraiment une solution pour elle, mais qui reste quand même très précaire au final.
Mais pour moi, ça dénote clairement le manque de possibilités. Je veux dire, c'est un réel parcours du combattant. Je pense qu'il y a trois familles de la Maison des parents solo qui aboutissent. Et les premières discussions ont eu lieu il y a bien un an et demi, si je ne m'abuse. Donc ça montre clairement à quel point ces mamans-là ont envie de s'accrocher à ce projet, ont envie aussi de pouvoir se dire qu'elles proposent autre chose à leurs enfants. C'est quand même un bâtiment passif, il y a un jardin. Donc il y a des points positifs aussi, mais elles doivent aussi faire leur deuil de se dire, bah, en fait, c'est de la colocation, je dois cohabiter, je dois discuter quand j'ai pas envie, je rentre d'une journée de travail, bah, j'ai une charge sans doute à faire dans la collectivité et autres. Maintenant, pour le projet Liberté, il y a eu la grande chance d'être accompagnée par Habitat et Participation. C'est pas le cas de tous les projets colocation. Donc voilà, moi, de nouveau, pour moi, c'est clairement mettre en exergue ce qui pose problème et le manque de, d'autres solutions. C'est vraiment à défaut d'autre chose, on prend ça parce que, je veux dire, la colocation, quand on est jeune et qu'on fait ses études, c'est un plus, c'est chouette, on finit le vendredi tous ensemble à discuter. Mais quand on est maman solo et qu'on a eu 11 heures de travail dans les pattes et qu'on a notre enfant qui pleure, on n'a qu'une envie, c'est de fermer la porte, comme tu disais, Alexandra. Donc voilà, je pense qu'elles prennent ce qu'il y a entre guillemets maintenant. Ce projet, ce qu'il y a de beau aussi, c'est que ça permet réellement ce qu'on appelle, nous, l'empowerment des mamans. C'est-à-dire qu'on voilà, on travaille avec elles là-dessus, indépendamment de la question du logement, mais de dire, en fait, si vraiment ce projet il te tente et c'est ce que tu veux, ben, tu vas y arriver. Bien sûr que tu vas y arriver, parce que tu vas y mettre du tien, parce que tu vas mettre de l'eau dans ton vin, parce que vous allez être accompagnés, parce qu'on va dialoguer, on va communiquer, donc les difficultés se dépassent. Et je pense que si le projet est bien accompagné, ça peut être un plus aussi, parce que, je veux dire, face à ça, j'ai posé les désagréments, il y a aussi les avantages de se dire qu'il peut y avoir une belle collaboration, un réseau, de se dire bah, qu'il peut y avoir une garde d'enfants.
Un soutien,
effectivement. Donc, il y a quand même aussi de belles choses qui peuvent se dessiner. Maintenant, je pense que tous ces projets-là, ils sont aussi à un stade un peu à tâtons. Je pense qu'ici, moi, je ne peux pas me permettre de pouvoir tirer des conclusions si hâtivement. Voilà, la seule chose que je tiens à nommer aussi, c'est que nous, on a eu un retour de bâton pas mal important aussi au niveau de ce projet. Surtout, on a eu toute une frange de mamans qui nous a dit, bah, en fait, ce n'est pas accessible. Et donc, je sais que ça a été un coup dur pour Nadia, pour l'équipe, de se dire, bah, en fait, on propose ce qu'on peut et les leviers, on ne les a pas eus à un moment donné au niveau financier et autres. Et voilà, donc il y avait quand même un peu cette frustration-là et je te rejoins totalement, Alexandra, sur le statut cohabitant. Il faut savoir que nous, pour ce projet Liberté, on a été prendre les renseignements, on s'est adressé à la secrétaire d'État aussi de se dire comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il en est, etc. Il y a eu aussi des contacts administratifs avec la commune de Kuckelberg. Donc, je pense que le travail, il est aussi quelque part en coulisses, de se dire comment est-ce qu'on peut un peu défricher tout ça, déminer tout ça. Il n'y a pas seulement l'aspect purement budgétaire. Donc, voilà. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on développera ce type de projet, on acquérira clairement une pédagogie là-dessus et de se dire, voilà, peut-être que le troisième, quatrième projet, il sera un peu plus développé. Après, il y a aussi du temps de travail qu'on n'a pas forcément. Je veux dire ça, il faut nommer, c'est une réalité aussi. Nadia est en 4-5e. Pour le moment, on a un financement Vivalis, donc ça, c'est intéressant. Mais je veux dire, elle a énormément de travail. C'est la seule assistante logement. Il est hors de question pour nous actuellement au niveau budgétaire d'engager. Donc voilà, il y a aussi quelque part ce frein, finalement, à la maison des parents solo, de ne pas pouvoir développer plus par faute de moyens et en l'absence du gouvernement, sans doute encore plus.
Je voudrais juste ajouter qu'en dehors de l'aspect humain, donc s'assurer que les mamans ont bien envie d'aller vivre dans ce type de projet, de voir quelles vont être les règles, qu'est-ce qu'elles vont mettre en commun, il y a aussi tout le montage en préambule de ces projets qui est long et chronophage, s'assurer trouver la maison ou trouver le lieu, le construire éventuellement, avoir les permis, s'assurer que la commune est d'accord. Tous ces points-là, c'est aussi très long à mettre en place.
Oui, oui, c'est vraiment un des constats, c'est tout un travail, comment dire, une charge mentale en plus hein, dans un quotidien qui est déjà bien chargé pour ces mamans. Alors, au-delà des constats que vous avez faits, des pistes d'amélioration, alors on voit que le tableau est plutôt gris, on va dire, hein. C'est de voir quand même un peu de perspective. Alors, on va faire comme s'il y avait un gouvernement, hein, un petit peu, mais s'il fallait une mesure, selon vous, une mesure structurelle à Bruxelles pour garantir un accès équitable au logement, ce serait quoi ? Si vous étiez, peut-être pas secrétaire d'État, mais disons ministre ou ministre du logement, qu'est-ce qu'il faudrait ? La première mesure ?
Tout simplement, je ne vais pas réinventer la roue, vraiment supprimer le statut cohabitant. C'est je pense ça. Que ça aiderait déjà. Voilà, j'aurais tendance à parler d'un statut monoparentalité, mais... Je suis pas sûre. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je vois qu'Alexandra me rejoint aussi. Donc moi, dans les mesures concrètes, supprimer le statut cohabitant, je pense que ça aiderait pas mal de personnes. dans un premier temps. Voilà, maintenant je laisse
la parole. La création de logements sociaux, l'annonce d'un grand plan de création de logements sociaux, structurel, pas un plan une fois tous les X années, et faciliter la mise en place, la construction de ces logements, parce qu'on se rend compte qu'il y a des plans qui sont toujours pas finis, qui ont été annoncés il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une mesure vraiment importante, augmenter le parc de logements abordables.
Et vous avez, enfin, moi, c'est un point de vue journaliste, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression, néanmoins, que la thématique de la monoparentalité est devenue, auprès du politique, après essayer de voir ce qu'il en fait, quand même un sujet qui n'existait peut-être pas il y a encore, allez, peut-être même 10 ans, on en parlait sans en parler, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Une dernière très intéressante, mais ça concernait la Wallonie, de l'IWEPS, l'Institut Wallon, sur ce statut-là et sur les réalités notamment des maires, il faut le dire, parce que les pères étaient généralement absents, disparaissaient des radars. Il y a quand même une prise de conscience. Alors peut-être elle vient un peu tard, mais en tout cas, il y a un focus là-dessus.
De notre point de vue, donc nous, on a effectivement l'impression que les politiques s'emparent de plus en plus de ce sujet et des difficultés et des réalités des familles monoparentales. On a eu, bah, tu l'as évoqué, mais le plan famille monoparentale sous la législature précédente. Il y a un plan qui est en train d'être discuté, élaboré en Wallonie. Par contre, le nerf de la guerre derrière, c'est toujours les financements, des mesures et quelles mesures sont choisies. Et on se rend compte que, bah, en fait, la situation, elle n'évolue pas pour les familles monoparentales derrière.
Et elles sont pires, si je vous entends.
Je pense que, voilà, pour l'associatif, moi, je vais pas faire de langue de bois. Effectivement, quand on lit les programmes, quand on lit la DPC en Wallonie, etc., en fait, le sujet devient incontournable. C'est-à-dire que, voilà, les familles monoparentales, elles ont toujours été là. La proportion augmente sans doute. Mais pour tous les partis politiques, on peut plus éluder. Les familles monoparentales, elles sont partout. Et donc, voilà, je pense qu'il y a effectivement une rhétorique à ce sujet-là. Maintenant, en termes de moyens concrets, alors là, voilà, c'est un peu facile. On peut pas faire un procès d'intention à Bruxelles vu qu'il n'y a pas de gouvernement. Mais moi, j'ai l'impression que ce sont réellement de belles paroles, en fait. Et ça fait joli parce qu'en fait, c'est un public qu'on ne peut plus éviter. Mais moi, je travaillais en maison d'accueil avant de travailler à la maison des parents solo. Je rencontrais déjà des familles monoparentales et c'était pas forcément un sujet à la mode. Donc moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire la différence entre certains partis qui se disent c'est inévitable et on en parle, et puis d'autres partis qui veulent peut-être s'en saisir et mettre beaucoup plus les moyens. Maintenant, voilà, on est un peu dans l'expectative. Mais en termes de moyens concrets, par exemple pour la maison des parents solo, on est quand même le seul centre d'aide aux personnes à traiter exclusivement des questions monoparentalité. Il faut savoir qu'on a un pendant de notre accompagnement qui n'est pas subsidié, par exemple, ou en partie ou très peu, qui est le pluridisciplinaire. Donc non, dans les, j'ai envie de vous répondre très honnêtement, non, en fait, oui, il y a une rhétorique plus présente, mais par contre, dans les moyens, non, on ne voit pas les choses, les lignes bouger, donc je pense que ça, c'est important à souligner.
Et pourtant, comme vous disiez, c'est vraiment une réalité qui s'impose à tous, hein, vu les annonces qui sont annoncées ou au fédéral, ou au régional au niveau wallon, et qui sait peut-être à Bruxelles, c'est une réalité qui s'impose, parce qu'il faut parler d'intersectionnalité, c'est vraiment à chaque... on peut prendre le sujet par n'importe quel bout, qui va-t-on trouver? C'est la maman solo.
Je pense aussi que il faut mettre le focus et voir les choses d'une autre manière. Par exemple, même si partis politiques leur programme, merci, on voit la thématique monoparentalité. Moi, j'ai envie de dire, il faut voir les choses d'une autre lorgnette, dans le sens où, quand on déconstruit au niveau fédéral certaines mesures, certaines avancées sociales, je pense notamment au fait de pouvoir arrêter l'allocation de chômage aux 2 ans, en fait, qui on touchera là-dedans? Qui seront les premières victimes? C'est les familles monoparentales. Donc je pense qu'il y a en focus cette thématique qui fait jolie, et puis il y a derrière toutes les mesures qui finalement viendront fragiliser les familles monoparentales. Donc pour moi, il y a une espèce de dissonance dans les programmes des partis politiques, de se dire, on sait que c'est une maman solo qui va trinquer au niveau des mesures fédérales pour les pensions, comment les choses vont être calculées. Tout le temps, ce sont les mamans solo qui trinqueront parce qu'elles ont eu des temps partiels. Tu vois?
Parce qu'elles ont pris un congé parental si elles avaient eu les moyens pour s'occuper de leurs enfants. C'est un point sur lequel on est très inquiet à la Ligue des Familles, c'est un certain nombre de mesures qui ont été annoncées au niveau du gouvernement fédéral. et l'impact que ces mesures vont avoir sur les familles en général et plus particulièrement sur les familles les plus précaires, dont les familles monoparentales. Khadija l'a évoqué, la limitation des allocations de chômage à 2 ans, le fait de créer un sac à dos pour rassembler tous les congés de toutes les familles et de les mettre par enfant. Du coup, ça veut dire que quand on est famille monoparentale, si l'ex-conjoint est toujours présent, il faut s'arranger avec lui pour savoir comment on va se répartir les congés entre les ex-conjoints. Ça risque de créer des tensions. Et puis, ils ont dit qu'ils allaient harmoniser entre les différents statuts indépendants, employés et autres. Et du coup, ils vont harmoniser à quoi ? À la hausse ou à la baisse ? C'est aussi une de nos questions. Ils parlent aussi de flexibiliser le marché du travail, notamment d'annualiser le temps de travail. C'est très gentil de demander aux gens d'aller travailler peut-être plus à une caissière en décembre pour les fêtes de Noël, mais en fait la garderie elle ferme pas plus tard, elle ouvre pas plus tôt, et puis est-ce que c'est vraiment envisageable de se dire qu'on va laisser son enfant jusque je sais pas quelle heure à l'école ou à la garderie ou à la crèche? C'est pas possible. Et puis après on va dire aux familles et aux familles monoparentales, ah, mais vous avez refusé l'offre d'emploi. Vous êtes exclu du chômage. Donc pour nous, c'est vraiment des points d'intention sur lesquels on va se battre.
Et c'est pour ça, alors que vous évoquiez qu'il y a déjà un statut, mais un débat, hein, c'est toujours un peu entre un statut universel et alors un statut plus, plus en fonction de catégorie. C'est pour ça que vis-à-vis de tous les constats qu'évoquait Alexandra.
Oui, moi je reste très prudente parce que je pense aussi que quand on met un certain statut, une certaine case, ben voilà, c'est difficile d'en sortir. Maintenant, pour moi, le réel enjeu ici, c'est de pouvoir penser les choses au regard des réalités des familles monoparentales. Et quand tu nommes effectivement, il n'y a pas de garderie, les frais de crèche et autres, moi c'est ça, c'est le législateur, pour moi, il doit pouvoir faire en sorte de tenir compte de toutes ces réalités-là. Et la réalité des familles monoparentales, on en tient très très peu compte. Moi c'est plutôt ce gap-là, et donc c'est vrai que quand on regarde, c'est bien beau d'avoir sur toutes les pages le mot monoparentalité, c'est un mot qui sonne bien, mais derrière, quand on déconstruit et qu'on analyse effectivement toutes les mises en place politiques, il y a vraiment une inquiétude là-dessus. Donc moi, avec humilité, je suis personne pour dire qu'il faudrait tel ou tel statut, mais le constat aujourd'hui est de dire que finalement le législateur ou même le gouvernement, quand on pense au fédéral, il y a très très peu de femmes, en fait. Je me dis, à un moment donné, qui est-ce qui peut aussi ramener ces réalités-là, de dire, en fait, là, il faut pouvoir redescendre d'un cran et aller voir ce qui se passe chez les petites gens. Et c'est notre travail aussi, le terrain, de pouvoir dire, là, les réalités des familles monop, on les bafoue. Donc, voilà.
Et en guise de conclusion de ce tableau, donc voilà, vous nous écoutez peut-être depuis 20-30 minutes, donc vous avez entendu donc les constats, les pistes, les perspectives. S'il fallait si vous souhaitiez dire quelque chose aux mamans solo qui nous écoutent et qui sont peut-être en difficulté, en train de chercher un logement pour un enfant, 2 enfants, 3 enfants, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Bah, je pense qu'aujourd'hui, même si le tableau qu'on a dressé est sombre, il est honnête et il est responsable. Je pense que c'est important. Et si on avait compté fleurettes pendant 20-30 minutes, je pense que les parents solos ne se seraient pas sentis entendus ni représentés. Voilà, je pense que moi, ce que j'ai envie de dire à une maman solo qui est en difficulté, ou un parent solo en général, mais là, on s'adresse aux mamans en l'occurrence, c'est de dire ne perdez pas la foi, en fait. Je pense que c'est ça. Je pense que pour moi, le moteur, il est là. C'est de se dire qu'il y a des associations qui vous aident, qui vous accompagnent. Et je pense que c'est en ça, finalement, que la Ligue ou la Maison des parents solos, ou tout le tissu associatif bruxellois, je pense qu'on n'est pas les seuls. On est énormément dans ce cadre-là. Et on arrive à porter, finalement, une voix actuellement qui est d'autant plus forte. Moi, je pense qu'en termes de droits sociaux, on se bat jamais comme on se bat maintenant, parce qu'on sent justement qu'on a un tournant justement décisif. Et donc c'est de dire, vous n'êtes pas seul, vous avez des associations qui vous représentent, vous avez, voilà, ces familles-là en général, elles sont invisibilisées et souvent on leur donne pas la parole. Et c'est de dire, nous aujourd'hui, si on est là et si on pousse un peu ces portes-là et qu'on s'exprime dans les médias et autres, c'est pouvoir faire en sorte de faire entendre leur voix. Je veux dire, de se dire, vous n'êtes pas tout seul, moi c'est ça l'idée. Et il y a des associations qui existent pour vous accompagner au quotidien, à la fois en termes de recherche de logement, à la fois d'écoute et de soutien. Je pense que ça c'est fondamental, parce que dans une crise, qu'est-ce qui aide finalement ? La solidarité. Le fait de ne pas être tout seul, de se dire il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, et donc voilà, moi je les invite justement à sortir de cet isolement, à pousser la porte d'une association quelle qu'elle soit, et qu'ils puissent entendre ces parents-là et de dire voilà, c'est une période difficile, c'est une période critique, on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde aussi, mais moi, je pense que la solidarité et le fait de dialoguer, de communiquer, de se dire, OK, on vous accompagne, et pas un accompagnement qui soit haut et bas, vraiment un accompagnement d'égal à égal, parce que moi, personnellement, je suis maman solo aussi, donc c'est des réalités qui me parlent sans doute différemment aussi, parce que je veux dire, je travaille et autres, mais voilà, c'est de leur dire, vous n'êtes pas seul, et il y a une main qui est là, qui n'est pas tendue, mais qui est à côté de la vôtre et qui peut vous donner un petit coup de main.
Mmh. Alexandra, pour conclure. Même,
aussi, à peu près le même message, mais effectivement, n'hésitez pas à sortir de la solitude, n'hésitez pas à pousser la porte des associations, à venir nous voir, à venir nous partager vos difficultés, vos problèmes. Nous, on a conscience des problèmes et des difficultés que ces familles vivent. Et à la Ligue des Familles, on va continuer à porter des solutions auprès des décideurs politiques, à aller faire entendre la voix de ces familles et des difficultés qu'elles vivent, et à essayer de changer les choses pour que leur quotidien devienne plus facile.
Ben merci à vous deux pour cette discussion. Hein. C'était plus une discussion qu'un débat. Hein. Merci Alexandra Wolf de la Ligue des Familles. Merci Gadisha Boucherab de la Maison des Parents Solo. Merci à Flavien Gillet de Bruxelles nous appartient pour l'enregistrement, le montage. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et vous pouvez retrouver toute une enquête sur le sujet, sur les mamans isolées à la recherche d'un toit, et notamment un toit en colocation, dans le dernier numéro d'Alter Echo. Sur www.alterecho.be. À bientôt pour un prochain débat, un prochain podcast. Au revoir.
Merci.